Top. Alors on va essayer de continuer un petit peu sur l'avancée de la semaine dernière. Ce qui serait intéressant donc, c'est d'avoir cette image un petit peu commune des trois parachutes qui traitent donc, de la sortie d'Égypte, Shemot, Vaera, Bo, et avoir un fil conducteur qui va nous aider on va dire à comprendre un peu plus le sujet. En fait, en substance, qu'est-ce qu'on avait dit la semaine dernière ? On avait dit que celui qui étudie la sortie d'Égypte pour comprendre comment Hachem nous a sortis de là-bas, bon, c'est joli, mais il est à côté de la plaque. Si je reprends le terme que j'avais pris la semaine dernière. Si c'est pour comprendre, apprendre, dévoiler un petit peu la partie exodus de l'histoire, un peuple opprimé qui sort de l'oppression vers la liberté, c'est pas ça le but. On avait dit que le but était tout simplement de comprendre, parce que Bémet, si c'était le but, si le but c'était juste de déplacer le peuple d'Israël, de sortir de là-bas, alors on affrète un avion et on prend tout le monde dedans et on les amène là où ils doivent aller. Une paracha, une maca qui figure dans notre paracha aurait suffi. Rocher, quoi. Ils bougent plus, ils sont sclérosés par les ténèbres, ils voient plus rien, tout le monde fait ses valises tranquillement, et on part. Donc on a très bien compris que le but n'était pas de comprendre comment Hachem nous a sortis de là-bas. Parce que cela aurait pu avoir lieu avec une facilité, on va dire, déconcertante. Alors, ce qui nous intéresse à nous, c'est de comprendre comment, de cette histoire, moi, je vais comprendre que je dois sortir de mon Égypte, aujourd'hui et maintenant. Dans ma vie d'aujourd'hui. Le Rav Kook, dans son pirouche sur la Gada, ça apparaît dans le Sidour Olat Riya. Il ramène que lorsqu'ils arrivaient dans le Seder, au passage, Veilu Lotzi Akadosh Baruch Hu et Avotenu Mitzrayim, si Akadosh Baruch Hu n'avait pas fait sortir nos ancêtres d'Égypte, Are Anu Uvanenu Ayenu Meshubadim le Paro be Mitzrayim, nous aurions été, nous et nos enfants, asservis à Paro en Égypte. Az Rav Kook, quand il arrivait toujours à ce moment, au soir du Seder avec sa famille. Et c'est quoi cette histoire? Et Paro, il serait mort 70 fois déjà. De quel Paro? On serait encore asservi à Paro aujourd'hui. Mais de quel Paro? L'histoire, voilà, même oublie, il met de côté l'histoire du Ham Israël. L'Égypte aurait vécu de toutes sortes de bouleversements. Déjà, l'Égypte qu'on a connue, nous, jeunes, n'est pas l'Égypte d'aujourd'hui. Vous imaginez donc en combien de temps ça peut changer ? Arrêtez de dire, effectivement, le monde aurait été figé. Comme ça, le rapport explique. Le monde aurait été figé dans le sens, les gens qui naissent avec un statut seraient restés bloqués avec ce même statut jusqu'à la fin de leur existence. C'est ça, Meshubadim, Ayin ou les Paro, Ben Israim, c'est qu'il n'y aurait aucune source d'inspiration, aucune référence historique qui nous permettrait à nous aujourd'hui en tant qu'individus de dépasser nos limites. Ah, bon, bah, je suis pas né dans une famille de Bnei Torah, bon, je suis pas Bnei Torah. Je suis traditionnaliste. Il n'y aurait pas eu de mouvement possible. Le monde aurait été figé. C'est ce que veut dire littéralement. Enfin, moi personnellement, ça m'excite ce genre de pérouge, parce que j'ai réalisé qu'en fin de compte, ce que je considérais toujours comme étant, il y avait le pshat et le drash. Alors le drash, c'est les chassidim qui viennent, qui prennent un pasouk et de façon très ésotérique, ils vont élargir le champ d'application du Passouk. Le Passouk parle de l'Égypte d'il y a 3000 ans. Mais aujourd'hui aussi, on peut dire qu'il faut sortir. En fait, j'ai réalisé. Non, mais. C'est que sur ce sujet-là, le Pshat et le Drash ne sont qu'un seul et même bloc. Une seule entité. Sortir d'Égypte. sortir d'Égypte n'est pas un événement. C'est juste une référence historique qui a eu lieu une fois et qui prouve que cela doit fonctionner toujours et constamment de la même manière. Le juif à échelle aussi bien individuelle, communautaire que nationale, doit toujours être à la recherche de sa sortie d'Égypte, de la sortie d'Égypte de sa famille, de son entourage, de sa communauté et de son peuple. C'est un mouvement constant. C'est juste une fois qu'Akadosh Baruch Hu a mis la main à la pâte, il a organisé les choses de façon à rendre possible toutes les sorties d'Égypte à venir dans le temps. Alors on avait compris comme ça. Vous vous rappelez, de façon très brève, lorsqu'Akadosh Baruch Hu avait présenté le projet à Moshe Rabbeinu, il lui a dit Lecha veishlachacha el paro, je t'envoie donc chez Paro, vehotse et ami ben Israël, mimitraim. En vérité, quand on analysait les choses de façon plus précise, ça voulait dire que Moshe Rabbeinu avait quelque part, on va appeler ça trois missions. La mission de faire accepter à Paro, et au même titre, avec la même difficulté, faire accepter au Bnei Israël de devoir sortir, c'est la même difficulté. Vehotse. Il aurait pu dire je vais t'envoyer chez Paro, qui lui va faire sortir. Non. Tu vas aller chez Paro, première mission. Deuxième mission, avec la même intensité, tu vas aller voir les Bnei Israël. Et tu vas les sortir Mimitzrayim, du pays le plus, on va dire, représentatif de la matérialité, de la réussite matérielle. Et même de là-bas, de ce pays le plus caractérisé en tant que abondance, réussite, développement, le summum, le paroxysme de la réussite, même de là-bas, on a le devoir de sortir. Alors, Moshe Rabbeinu, par rapport à ces trois projets, avait posé trois questions. Moi, il lui avait dit, Mi Anochi, on va voir rapidement, on est dans la page 158, dans les Chumashim blancs, voilà. Dans le verset Yud Alef, il disait là-bas, en fait, c'est chapitre 3, verset 11. Donc, au même titre que la mission se présentait sous trois formes, Moshe Rabbeinu a une question, une, entre guillemets, opposition, aux trois ordres de mission. Il lui dit, « Vayomer Moshe Ela Elokim, d'abord, Mi Anochi Ki Elech El Paro. Tu m'as envoyé chez Paro, mais d'abord, c'est, moi je suis sorti de ce monde de nobles, ce monde politique, où que les grands parlent entre eux et négocient entre eux. Il dit, aujourd'hui, moi, je suis un petit berger à Midian, je suis parti de là-bas, je suis sorti de ce monde. Donc aujourd'hui, je n'ai plus aucun droit de me présenter devant Paro pour pouvoir réaliser ce que tu me demandes. Déjà, donc, première opposition par rapport au premier ordre de mission. Ensuite, Vechi Otsiet Bene Israël Mimitzrayim. En fait, il ne faut pas dire comme ça. Vechi Otsiet Bene Israël. Et regardez Rashi Mamash, il va exactement dans le sens dans lequel nous allons. Donc Rashi dans le 11, Vechi Otsi et Bene Israël, donc dans la colonne de droite, à la cinquième ligne, Vechi Otsi et Bene Israël, dit Rashi, Ve'af im chashuvani. Et imaginons que je suis bien prédisposé à remplir l'ordre de mission de m'adresser à Paro parce que j'ai vécu au palais quand j'étais petit, au nom de ma jeunesse. Mazachou Israël, shetaaseh lahem nes ve'otziyam mimitzrayim. Mais en quoi le peuple d'Israël est apte à sortir d'Égypte? En quoi il mérite de sortir de là-bas? Sous-entendu, mais même, d'accord, imaginons que Paro, j'arrive à le convaincre. Mais il n'y a personne qui est intéressé.
C'est un peu le même discours que les Malachim, hein, qui disent quel mérite ils ont de sortir alors qu'ils sont idolâtres comme les Égyptiens.
Mais les Malachim vont le dire ça au moment de l'ouverture, juste avant l'ouverture de la mer Rouge, au moment de l'ouverture. Exactement. Mais là, en fait, Moshe Rabbeinu a un manque de confiance dans les gens. C'est-à-dire, Comprenez, c'est comme si maintenant, vous avez un ami qui a son magasin ouvert le Shabbat, plusieurs magasins ouverts le Shabbat, et qui fait un chiffre significatif le Shabbat. Sa recette du Shabbat est importante dans le cadre de l'évolution de sa société. Et donc tout va bien. Il est dans une phase où tout va bien. Et on vous demande, là, maintenant, va le convaincre de faire Shabbat. Vas-y, lève-toi de bonheur. Le jour où il me dit, sa grand-mère, elle est malade, je sais pas. Et, alors, je dis, tu veux pas prendre sur toi. Le jour où il me dit qu'il a une boutique à couler, il comprend pas pourquoi, je vais commencer à me servir de ça, utiliser pour pouvoir lui dire, mais tu sais pas, le gain, et ça veut dire quoi, la bracha, on va commencer. Tant que tout va bien. Pour les bénis Israël, c'est exactement la même chose. Je dis, mais qu'est-ce que je vais leur parler, moi, là-bas, alors qu'ils sont, ils sont arrivés à une génération où ils se sont totalement accommodés au mode de vie égyptien. D'accord, bon, on est les travailleurs. On est les travailleurs. C'est comme si maintenant, on te disait d'aller parler au portugais, d'arrêter de faire du carrelage et de la peinture. Voilà. Mais ils sont bien comme ça. Ils ont accepté. On les a catégorisés dedans. Bon, il y en a qui font plus. Mais ils aiment bien, ça ne les dérange pas.
Ils pourraient dire « je vais essayer » ou...
Hein?
Au lieu de dire non, pourrait...
Oui, mais le problème, c'est qu'il ne s'agit pas d'essayer, parce qu'il s'agit de partir sans revenir. C'est un projet fou qu'il leur propose.
Non, de parler, oui, déjà d'aller parler.
Comprenez, c'est quelqu'un qui a été pris, un salarié. Vous parlez à un salarié qui, toute sa vie, on va dire, s'est mis volontairement, consciemment, sous l'aile de son patron. D'accord, d'un système au-dessus de lui, qui lui gère les gros. Et lui, il s'occupe des petits problèmes, il fournit, en contrepartie, on lui donne son salaire. On lui dit, non, sors de là, et tu vas monter ta boîte. Et je veux pas. Je suis très bien comme ça, je me suffis à moi-même. Ça marche très bien comme ça. C'est extrêmement. Et c'est ça le deuxième problème de Moshe Rabbeinu. Et le troisième problème, c'est Mimitzraïm, du pays qui symbolise le summum de la réussite. C'est ce qu'on avait dit en somme la semaine dernière. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est lorsqu'on tourne un petit peu les pages et qu'on arrive à ce que maintenant Moshe transfère les ordres de mission. Rappelez-vous que par rapport à ces trois questions, ces trois oppositions, Akadosh Baruch Hu a donné trois signes qu'on a commencé à expliquer la semaine dernière. Par rapport à Mianochi, qui tu es, il lui a donné le signe du bâton qui se transforme en serpent et qui redevient bâton. Par rapport au manque de confiance dans l'Ebné Israël, il dit, c'est du lachanara, voir que le défaut des gens, ça amène la lèpre. Et donc là, c'est le deuxième signe. Et par rapport à Mimitzraïm, je vous avais dit, prends l'élément phare, l'élément le plus cher qui symbolise tout l'Égypte, toute la réussite de l'Égypte, c'est le Nil. Le Nil, regarde, tu vas le transformer en sang, etc. Ce qui est intéressant de voir, c'est lorsque maintenant Moshe Rabbeinu vient présenter le projet à Hachem. Alors regardez, on est au Shevi'i de la Parashat Shemot, page 162 dans le Chumashim blanc. Donc après avoir démontré au Bnei Israël les trois signes que Hachem avait montré à Moshe, Ve'achar ba'u Moshe ve'aron, ve'yomru el paro, ko amar Hachem eloke Israël, shalach etami ve'yachuruli ba'midbar. Regarde, vous avez remarqué comment c'est exprimé. Ainsi, Hachem, le Dieu d'Israël, dit, renvoie mon peuple qui puisse me célébrer dans le désert. Vayomer Paro, et là Paro, à l'image de Moshe, donc c'est vraiment Zele Umadze, c'est les forces du mal, parce que c'était pas des forces du bien qui parlaient, c'était Moshe. Maintenant, il y a les oppositions du Nefesh à BMI. Vayomer Paro, mi Hachem. Asher Eshma Bekolo. Encore une fois. Donc, qui est Dieu pour que moi, je l'écoute? L'Echalach est Israël. Et en plus, tu veux renvoyer un peuple qui est très bien ici, qui ne voudra jamais partir. Maintenant, Lo Yadat Yet et Hashem, Vegam et Israël, Lo Shalach. Ça, c'est le résultat. Et puisqu'on est en Égypte, en plus, on est dans le summum de la réussite, mais jamais les choses vont bouger. Pourquoi tu veux que ça bouge? Ça marche bien comme ça. D'accord, donc on a un vrai programme. D'accord, malgré que les psukim ont l'air redondants, À chaque fois, on revient, on a l'impression d'insister, et après, on revient. On a l'impression, on va dire, avec une compréhension de base, on assiste à quelque chose de limite puéril. D'accord ? J'accepte. Non, mais j'accepte plus. On dirait deux gamins en train de jouer, un qui prend l'autre dans le cou, dit que je suis le plus fort. T'es plus fort, et il le lâche. Non, t'es pas le plus fort. On a l'impression d'assister à ça. Et là, effectivement, ça ne serait pas la Torah si on voyait les choses comme ça. C'est beaucoup plus profond. Donc, ce que j'essaie, moi, de vous dire, c'est que les choses fonctionnent toujours en trois étapes. D'accord ? Là, les questions de Moshe, c'est trois étapes. Akadosh Baruch Hu donne trois signes pour être crédible aux yeux d'Ebn Israël. Paro va aussi exprimer trois oppositions à réaliser le projet d'Hachem. Et comme par hasard, on va voir aussi dans la Gada de Pessah, Rabbi Yehuda, Ayanoten Baim Simanim, Detzach Hadash Be'achav, il va cataloguer, ou catégorier plutôt les 10 Makot en trois catégories, en trois groupes. Detzach Hadash Be'achav. Donc vous avez bien compris qu'on est très très loin de comprendre ce que Rabbi Yehuda voulait dire, parce que même les enfants, avec un petit air sympathique, une petite mélodie, ils arrivent à retenir pleinement le nom de chaque plaie. Donc c'est pas pour ça que Rabbi Yehuda, comment on va faire pour que les gens ils se rappellent, on va mettre les rachetés votes. D'abord, n'importe quel gamin peut faire ça. Et en plus, c'est bon, on les connaît les 10 plaies entièrement, t'as pas besoin de me donner juste les rachetés votes, les initiales pour que je puisse m'en rappeler. Donc c'est clair que quand Rabbi Yehuda dit ça, c'est bien sûr, c'est pas dans un souci mémotechnique. Il le dit parce qu'il veut exprimer ici un véritable programme. Et quel est ce programme ? Et on va voir, j'ai réalisé, il y a quelque chose vraiment de très méticuleux qui s'opère ici. En fait, l'histoire de la sortie d'Égypte ne s'enracine pas, comme on aurait pu le dire, apparemment, dans l'histoire de Yosef et ses frères. D'accord, dont le frère jalousé est vendu en Égypte et qui a réussi à ramener tout le monde avec lui, avec sa réussite là-bas. Apparemment, c'est ce qu'on pourrait voir au niveau historique, alors qu'en vérité, on sait tous très bien que cette histoire s'enracine dans la promesse faite à Abraham. En fait, l'histoire commence alors que Yitzhak même, la première génération, n'est même pas encore venue au monde. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu promet monts et merveilles à Abraham, Abraham lui dit « Bama Eda ki Irashena ». En gros, comment je sais que ça va continuer ? Toutes les civilisations, toutes les nations, toutes les cultures sont amenées à se développer et donc à changer, à se modifier. Du fait qu'ils vont, ils vont vouloir s'unir, ils vont faire l'Europe, ils vont faire les États-Unis. Donc les cultures vont se mélanger, donc vont s'atténuer, voire même disparaître. Comment je sais que ça va continuer ? Que cette relation que j'ai avec toi, que j'ai élaborée avec le maître du monde, comment je sais que ça va continuer ? C'est ça le souci d'Avraham. Sur ça, Kadosh Baruch Hu lui dit, c'est ce qu'on dit dans la Haggadah, « Baruch Shomer Avtachato l'Israël. » Béni celui qui a respecté sa promesse. Quelle était sa promesse ? Que Moshe Nehemar, que Moshe Shamar à Kadosh Baruch Hu l'Avraham Avinu, « Yadoa Teda » alors c'est important, il le dit, sache. « Ki ger yiezaracha beres lolahem vavadou veinu otam arba meotchana » etc. Et après, ils sortiront avec une grande richesse. Quel est le programme ? Comment Akadosh Baruch Hu répond à Abraham ? Il dit, tu sais comment je vais m'assurer à ce que cette relation se pérennise dans le temps ? C'est simple, j'ai un programme pour ça. Quel est le programme ? Ger yiezaracha. D'abord, ça commence par ce sentiment d'étrangéité. On est ger. Ensuite, va avadoum. Ça passe par une étape de travail. Ensuite, ve'inu otam. Ensuite, c'est la partie inexplicable, la partie incohérente, irrationnelle. C'est la partie inouï, comme on dit, mortification, souffrance. Souffrance qui ne justifie pas. À la rigueur, le travail, il y a une rentabilité dans le travail. D'accord ? Tu m'apportes quelque chose, je te donne un salaire en contrepartie, on construit, on évolue, etc. Dans le inouï, il n'y a pas de. Il n'y a pas de partie cohérente. Il n'y a pas de rationalité, il n'y a pas de logique dans la partie inouïe. Alors, ce que je veux dire, c'est bien, c'est le pshat que Rav Shimshon Refaeli Hirsch ramène, qui est merveilleux. Mais avant ça, juste, Rappelez dans la Gada, puisqu'on a parlé de ce passage, on dit, on donne le programme, et après on dit, Vehi Sheam Dalavote Nouvelana. On recouvre les matzot, on lève le vin, on lève la coupe de vin, il y en a même qui se lèvent, après chacun il chante à sa façon là. Enfin, c'est un passage important, Vehi Sheam Dalavote Nouvelan Shebechol Dor Vador, Om Dimalenu Lechaletenu. Chaque génération, le Netiv, dans son pirouche de la Gada, il pose la question. D'abord, c'est quoi Vehi? C'est quoi Vehi Sheam Dalavote? Baruch Shomer Avtachato l'Israël, il y a eu la promesse d'Hachem, Vehi Shamda Lavotenu. C'est quoi le Vehi? C'est la Emouna. Et après il demande, il dit, Shebechol Dor Vador Amdimalenu Lechalotenu. Le Netziv, après une de l'origine, il pose, mais attends, chaque génération, c'est pas vrai, ça, il en exagère. Bah, chaque génération, il y a eu des pauses. Ça dépend les pays, ça dépend les régions. Des fois oui, des fois non. Chez Bechol, Dor Vador, chaque génération. Il explique de façon très simple. Vehi, c'est la promesse. C'est la promesse d'Hachem. Mais cette promesse, elle contient un programme qu'on a défini par trois étapes. Étrangéité, travail et souffrance. Maintenant, il dit, c'est ce programme qui nous permet de s'assurer de la pérennité de la relation qu'on a avec Hachem et de la relation qu'Hachem a avec nous. Maintenant, il dit, c'est quoi chez Bechol Dor Vador? Il dit, non, mais ce n'est pas les étrangers. C'est le peuple d'Israël, à un moment donné, ne se sent plus autant étranger qu'il l'était au début de l'arrivée là-bas. Il s'est installé. Et doucement, doucement, il ne sert plus Hachem, il ne travaille plus pour Hachem de la même façon, mais il travaille plus pour le pays dans lequel il se trouve. Et il change de programme. C'est, en fait, c'est comme si on disait... Mais c'est terrifiant, hein, c'est les propos du Netziv. C'est-à-dire qu'il est en train de dire, en un mot, que le plus grand ennemi d'Israël, c'est Israël. C'est-à-dire ceux qui ont toujours voulu se confondre dans les autres peuples, c'est nous-mêmes. Chez Bechol Dor Vador, chaque génération a voulu un jour s'intégrer, ou plus exactement se désintégrer au niveau de l'âme. Désintégrer son âme pour s'intégrer. D'accord ? Donc, on le voit juste avec nos parents sont arrivés ou bien des pays ashkénazes ou bien des pays sfarades, et ils sont arrivés, il y avait trop rien, et ils se sont battus tant bien que mal, faire une synagogue, hein, faire une boucherie, faire un restaurant, pourquoi pas faire une école. Mais doucement, eux, ils sont battus. Mais après, doucement, avec tout ça, il y a aussi une partie qui s'est bien installée. Il y a même un député. On est bien implanté. Ça y est, on est dedans, on est dans la machine. Et tout ça, ça serait chez Bechol Dor Vador, on me dit malenu lechalotenu. C'est ce qui fait, c'est cette intégration, c'est ce qui fait notre véritable danger. Ve'akadosh Baruch Hu, à travers la promesse, matzilenu miyadam. Alors essayons d'aller vite parce que on est déjà. Alors, le programme c'est quoi? Le programme c'est Paro. Et ça, c'est aussi exceptionnel. Hein. Quand tu regardes comment l'histoire elle commence, Vayakom Melech Hadash à Mitzrayim, Asher lo yada et Yosef. C'est-à-dire, on part d'un roi qui fait confiance à un ex-détenu de prison égyptienne, à un roi qui tout simplement décide d'envoyer les nourrissons et les jeter comme de vulgaires animaux dans le Nil. Comment on arrive à ce projet antisémite alors qu'on était si bien placé, si bien positionné avec Yosef? En vérité, c'est même pas... En vérité, c'est les Juifs qui appellent ça l'antisémitisme. C'est nous qui avons inventé cette histoire. En vérité, n'importe quelle, on le voit aujourd'hui, c'est l'actualité brûlante, la question des migrants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous, on est ouvert à la misère du monde. Et par rapport à ça, donc, il faut bien protéger des citoyens du monde. Oui, mais à un moment donné, cette volonté risque de mettre en péril ton propre statut, si c'est pas déjà fait déjà. Et là, on commence, là tout d'un coup, il y a un président qui arrive et qui dit Bon, alors il faut faire le tri. Alors, sur quels critères tu vas te baser, toute la polémique, peu importe, ça ne nous intéresse pas. Mais le problème, c'est le même. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ? Tu reçois, alors, tant que tu reçois, tu es chez toi, et tu reçois l'autre, tant qu'il a le statut d'invité, il te dérange pas. Avec plaisir, au contraire, il te renvoie une image de toi noble. Tu accueilles, tu donnes, tu t'occupes, t'es un patron, tu aides le monde. Il te renvoie une belle image à la rigueur. Mais à partir du moment où cet invité que j'acceptais de recevoir prend le dessus. Vaïshretsu, vaïrbu, vaïatsmu, bimod, meod. Les Juifs ont pris une place trop importante en Égypte. D'accord ? Les migrants vont se multiplier de façon exponentielle. Là, on ne maîtrise plus du tout l'histoire. Là, il y a un vrai danger. Là, il faut faire savoir, il faut faire des lois qui vont recadrer les choses et me maintenir à moi dans la position de citoyen légal, égyptien d'origine, et le migrant, le touriste, celui que j'ai accepté, celui que j'accueille. Vous comprenez ? C'est-à-dire, le projet de Pharaon, c'est pas mieux que Macron et sa bande qui vont décider de faire le tri au niveau des migrants. C'est-à-dire, on veut rester... C'est l'Égypte, donc l'Égypte aux Égyptiens, sans être le Front National, mais il faut quand même limiter ça. La deuxième partie, c'est le Va'avadoum. Va'avadoum, donc c'est le travail. Donc à travers le travail, Paro va... Il va maîtriser, voilà. Et eux, ils travaillent pour moi, donc c'est moi le patron. Bon, ça, on comprend plus ou moins. Être éved, on peut être aussi éved d'Hachem, on va expliquer tout de suite en quoi ça consiste. Et la troisième partie, c'est la partie la plus irrationnelle. C'est-à-dire que, voilà, quand on pratique maintenant des traitements qui occasionnent de la souffrance, qu'est-ce que la souffrance va amener comme solution aux préoccupations de l'occupant. Paro. D'accord ? Il se préoccupe de ne pas se faire envahir, de garder l'Égypte aux Égyptiens, en gros. D'accord ? Donc pour ça, il ne donne pas les mêmes droits de vie. Ah, celui-là, ils vont être juifs, ils vont finir dans le Nil. Ok, bon. Il veut maîtriser sa nation. Pour ça, il va être le patron, il va les faire travailler. Mais qu'est-ce que le fait de les faire souffrir va amener comme solution à son problème? Rien. C'est la partie la plus incohérente d'un programme. Mais c'est un véritable programme pour pouvoir rester souverain sur sa terre. Intéressant. Je crois que c'était en 42. Bon, vous connaissez mieux l'histoire que moi. C'est Martin Gray ou Marvin Gray? Non, Martin Gray. Martin Gray. Au nom de tous les miens, c'est celui-là. Il a perdu deux fois sa famille. Hein? Alors lui est sorti de Treblinka, d'accord, où là-bas, donc il n'y avait même pas de sélection à Treblinka, c'était tout celui qui arrivait là-bas, quelques minutes plus tard, il partait en fumée. Et il a vu comment c'est-à-dire que dans toute cette usine d'extermination, où les êtres vivants finissaient quelques minutes plus tard en fumée, il a vu que c'était des juifs qui était à la base des commandes, des Sonderkommando. D'accord ? Il ne fallait surtout pas que les Allemands se salissent les mains, ni se polluent la tête. Donc c'était, il a vu ces horreurs. Et par miracle inexplicable, il a réussi à sortir de Treblinka pour arriver des kilomètres plus loin dans une ville qui s'appelle Zandro, je crois, Zandro. Et là-bas, qu'est-ce qu'il y voit ? Il y voit un groupe de juifs en train de travailler. Alors, c'est pas les travaux forcés, c'était pas... Alors maintenant, lui, c'est un squelette, il a vu l'horreur, le cauchemar absolu. Et il voit ces gens, ces juifs, en train de travailler plus ou moins librement. Plus ou moins. Mais ils étaient bien sûr soumis à un autre régime. Et il leur fait part du cauchemar absurde qu'il a vu, qu'il a vécu à Treblinka. Et que lui, miraculeusement, s'en est sorti. Qu'est-ce que font les juifs en entendant ? Ils disent, on va te trouver un psychologue très rapidement. tu as dû être choqué de certaines choses et tu dois exagérer. Qu'est-ce que je voulais dans cette histoire ? C'est-à-dire le inouï, la partie torture, la partie traitement de souffrance, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Et lui, quand il écrit son livre, il dit quelque chose d'absolument fabuleux. Il dit « Et j'ai été plus déconcerté à la réaction de ces Juifs que à travers la vue que j'ai pu vivre dans le camp de la mort de Treblinka. Ça m'a plus perturbé que eux ont du mal à me croire que ce que j'ai que l'impensable que j'ai pu voir là-bas. » C'est la notion de inouï. Alors maintenant, regardez. Qu'est-ce qui vient maintenant ? Rabbi Yehuda, il vient, et lui, il dit, je vais faire trois groupes. Detzach, Hadash, Be'achav. Qu'est-ce qu'on vient de définir ? Après Rabbi Shimshon Refael Hirsch, le processus consiste à l'étrangéité, tu n'es pas le patron, tu travailles pour moi, et je te fais faire ce que je veux après. D'accord ? C'est un vrai processus de galout. Qu'est-ce qu'on dit dans le schéma ? Ani Hashem Elokechem, Hashem Otseti Atchem Eret Mitzrayim, Liot Lachem Elokim. C'est vrai, on sait très bien, comme ça on l'a compris, que le but d'appréhender l'histoire de la sortie d'Égypte n'est pas de comprendre l'exodus, la sortie d'une quelconque souffrance, c'est de comprendre en quoi ça m'engage à moi. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a mis en œuvre pour que moi je devienne celui que lui il veut que je sois. En fait, on réalise ici que la sortie d'Égypte, liot lachem l'Elokim, ça veut dire. Vous êtes les esclaves de Pharaon, et c'est marqué de façon explicite dans d'autres contextes de la Torah. Car Kadosh aurait dit, au lieu d'être les serviteurs ou les esclaves, appelez ça comme vous voulez, d'un dictateur assoiffé de pouvoir qui s'appelait Pharaon, vous allez être les serviteurs du Ensof, de l'illimité, de l'infini, d'Akadosh Baruch Hu, tout simplement. C'est ça le projet. Le projet n'est pas de faire miroiter à l'être humain qu'il est en droit d'avoir une quelconque liberté. La véritable liberté, c'est d'être inexistant sous la coupole de l'infini, de celui qui peut tout. Si je suis Eved d'Hachem, là, j'atteins la véritable liberté. Et c'est ça le projet. Regardez maintenant comment ça se passe. On va essayer de feuilleter très rapidement. Je ne sais pas si vous comprenez où je veux en arriver. Detzach, Hadash, Be'achav. Bon, alors la dixième, mettez-la de côté. Peut-être on arrivera à l'expliquer un autre jour. Mais en fait, il les met en colonne. C'est comme si vous avez Detzach, Dalet, Tzadik, Khaf. Ensuite, Hadash, Aïn, Dalet, Shin. C'est le Aïn, il est sous le Dalet. Le Dalet, Dam, sous le Aïn. C'est des séries de trois. D'accord ? C'est des trios. Et dans ces trios, vous allez voir que tous correspondent à la même catégorie. On a dit que ça fonctionne en trois liens. Girout, Iboud, Inouï. Étrangéité, travail, torture. Vous allez voir que ces trois-là, c'est exactement le programme qui est exprimé à travers le Makot. Regardez dans la paracha de Vaïra, quand on arrive à Dam. Alors, c'est... On est page 172 dans les Chumashim blancs, donc au chapitre 7, verset 14. Vayomer Hashem el Moshe kaved lev paro me'en l'shalacha. Bon, alors ok, Paro refuse de faire sortir le peuple. Lech el paro baboker, inei yotze hamayma. Première plaie, qu'est-ce que tu dois faire ? Tu vas aller voir Paro, mais où ? En dehors du palais. Quand il se trouvera sur le Nil. En deux mots, pas dans son bureau. Donc, si on suit la logique que je viens de vous dire, la première plaie, il faut aller voir Paro à l'extérieur. Donc, exactement, à l'extérieur, l'étrangerité, tu as compris. Donc, on va retrouver ça où ? Dans la quatrième plaie, puisque c'est des séries de trois. Donc, après Dame, dans la première du deuxième trio, ça va être Arov. Prenez la page 175, au chapitre 8. Verset 16, Vayomer Hashem el Moshe, d'accord, premier du deuxième trio. Ashkem baboker, Veikiatsev lifne paro, hine yotse amaima. Lève-toi le matin, va chez Paro quand, au moment où il est au bord de l'eau. Si c'est vrai ce qu'on dit, on va retrouver ça dans la première du troisième trio. La première du troisième trio, c'est Barad. On tourne la page, on arrive alors au chapitre 9, verset 13, page 177, pasuk yud gimel, Vayomer Hashem el Moshe, Hashkem baboker veitiatsev lifne paro veamarta elav, etc. Et là, juste après, il y a Barad. Donc, il y a un ordre qui est bien respecté. Maintenant, allons voir la catégorie des deuxièmes. Le travail. Donc, le deuxième du premier trio, c'est Tzfardim. Il est dans la page 173, au chapitre 8, verset 26. Vayomer Hashem el Moshe, bo el paro. Cette fois, tu vas au bureau. Ça va, tu vas le voir au palais. Bo el paro. C'est le deuxième du premier trio. Le deuxième du deuxième trio, c'est Dever. Donc après Arov, c'est Dever. En même temps, on voit que là, il lui dit, tu vas. Allons au fond du deuxième du premier trio. Voyons Marachem el Moshe Boel Paro. Donc tu vas aller au bureau, tu vas aller au palais. Va Marta Elav. Ko Marachem Shalach et Ami Veyavdun. Vous allez revoir à chaque fois la même formule. Dans tous les deuxièmes, à chaque fois, il va lui dire, va au bureau, et tu lui dis, Shalach Ami Veyavdun, il y a avertissement. Et dans la troisième, on va pour essayer de gagner du temps, dans la troisième, vous allez voir, il n'y a aucun avertissement. Il n'y a plus d'avertissement. C'est ce qu'on appelle la souffrance inouïe. Il n'y a plus, va le voir et dis-lui que ça, lui va comprendre. Quand on arrive donc, Dan, Tzfardea, quand on arrive à Kinim, vous avez Kinim au chapitre 8, verset 12, dans la page 174, Vayomer Hashem el Moshe, Emor el Aaron, et tête matecha ve'achet afare. Vas-y, direct, on frappe. Frappe la terre et il faut l'époux. Vaya le chinim bechol eretz Mitzrayim. C'est du inouï. Akadosh Baruch Hu garde ce programme de trois étapes. Alors après, on a dit Arov. Donc Arov, on a bien dit au début, tu vas à l'extérieur. Ensuite, tu vas au bureau. Alors ça, c'est pour Dever. Alors pour Dever, où est-ce que ça commence? Pour Dever. Voilà. Au début du chapitre 9, page 176. D'accord, verset Aleph. Vayomer Hashem el Moshe, bo el paro. Vedibarta elav, ko amar Hashem lokei evrim, shalach et ami veyavduni. C'est la deuxième plaie du deuxième trio. Et ensuite, après des vers, on a Shechin. Regardez dans le pasouk 8 du verset 9, page 177. Vayomer Hashem el Moshe, troisième du deuxième trio. Vayomer Hashem el Moshe, ve'el Aaron. Kechou lachem melechof nechem. Prenez de la terre, jetez le truc, et ça va faire. Le shrine, les ulcères, etc. D'accord. Ensuite, première du troisième trio, bon, ça on l'a dit, ça c'est pour Barad et Arbé, c'est le début de notre paracha, Boel Paro, encore une fois, va à l'intérieur. Et le troisième, c'est Rocher, dans la paracha de Bo, vous l'avez directement, page 183, donc chapitre 10, verset 21, Vayomer Hashem el Moshe, t'as pas besoin d'avertir qui que ce soit, directement, il fait tomber le rocher. Il y a une véritable méthode ici qui est exprimée et qui consiste à chaque fois à nous enseigner à nous. Parce que le but d'appréhender les dix plaies, on n'est pas à sadomaso, on n'est pas là pour savoir. Ça me passionne de savoir comment ils ont souffert, les Égyptiens. C'est pas du tout ça. C'est de quelle façon Akadosh Baruch Hu se dévoile, de quelle façon Akadosh Baruch Hu va créer qu'au lieu d'être le serviteur de Paro, je vais devenir son serviteur. Ça fonctionne de la même manière. Et c'est ça le programme qu'il avait dit à Avraham, va avadoum, guerrier Zaracha, va avadoum veinu otam. Avec Akadosh Baruch Hu, ça fonctionne exactement de la même façon. D'abord, ce sentiment d'étrangéité, tu n'es le patron nulle part. Ensuite, la avoda, on va dire demain Bezrat Hashem dans le Hallel, Ana Hashem ki ani avdecha ben amatecha. C'est quoi ani avdecha? Je suis ton serviteur, le fils de ta servante. C'est Rabbi Nachman de Breslev qui donnait cet exemple extraordinaire. Il dit un jour un maître qui avait son serviteur qui travaillait normalement pour lui. Il lui dit, écoute, à partir de demain, tu vas m'amener à 4h30 pile dans ma chambre, mes chaussures bien cirées. C'est un cauchemar. J'avais des heures normales, maintenant il m'impose, c'est la folie, il veut me finir. Il dit, on a ça, on a à côté un roi qui est aussi un maître, qui avait une servante. Cette servante, elle travaillait à l'usine. Et une fois par an, le roi visitait l'usine et cette servante espérait approcher le roi du plus qu'elle pouvait. Imaginons maintenant qu'un jour, le roi il dit au fils de cette servante, tu vas m'amener mes chaussures cirées à 4h30 du matin. Comment la chose elle va être prise? Comment la chose va être perçue? Mais il n'y a pas un plus grand bonheur. C'était le rêve de ma mère. Il est né comme ça. Ani avdecha ben amatecha pitarta le mosera, il dit David Amelech. Il dit, mais plus tu vas exiger de moi de choses, et plus je vais me sentir privilégié. Pitarta le mosera, c'est-à-dire que les difficultés qu'engage à faire ta volonté, pour moi, c'est, tu m'as ôté tout ce qui me renferme, tout ce qui me cloisonne. Pitarta le mosera, c'est ça. Donc en fait, on a effleuré un petit peu cette position du Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch qui consiste à dire qu'il y a un véritable programme et qu'à la rigueur le but d'étudier les 10 plaies n'est pas de comprendre qu'est-ce que Hachem a infligé à l'Égypte, mais plutôt de quelle façon nous on devrait adhérer à la servitude sous la coupole d'Hachem.
C'est toujours comme ça que ça se passe, les gens qui arrivent dans un pays, ils sont étrangers, ils travaillent.
Exactement.
Assimilés.
Amen.